Chapitre 97. Charles Addinson se tient solennellement sur le perron qui domine la cour intérieure du quartier général des cochers. Ce soir, il est habillé comme eux. À ses pieds, une sacoche qu'il prend bien soin d'éloigner de toute flamme contient quelques bâtons de dynamite et le peu qu'il a pu dégoter de mèches dans un délai si bref. Il consulte à nouveau sa montre de gousset. Le rapproche. Devant lui, parfaitement alignés en vagues successives prêtes à se répandre dans la ville, les 25 attelages sont affrétés. Les chevaux piaffent et s'ébrouent. Leur fer frappe le pavé. Les hommes patientent, se répétant intérieurement itinéraire et instruction. Charles interroge une dernière fois sa montre. Le moment est venu. Il fait signe au planton et les immenses portes donnant sur la rue sont aussitôt ouvertes. D'une voix forte, il déclare à la cantonade « Messieurs, vous avez 20 minutes pour rejoindre vos positions. Je vous souhaite bonne route !» Les fouets claquent et les premiers rangs s'ébranlent. Les fiacres sortent à une cadence ininterrompue. La rue résonne déjà du martèlement des fers. Certains feront route ensemble vers un même quartier avant de se séparer pour gagner les postes qui leur ont été assignés. Chacun connaît précisément la tâche qui lui incombe. Les plus expérimentés sont envoyés du côté du square du Temple pour y restreindre toute circulation et dégager la voie au transport pour qui tout a été organisé. Avec une précision militaire, le dispositif se met en place. En soirée, la ville est en principe plus calme et la circulation aisée. Magasins et commerces étant fermés, seuls les restaurants et les lieux de spectacle ou de distraction engendrent encore de l'animation devant leurs pas de porte. Ce soir pourtant, nombreux sont les noctambules qui remarquent une activité inhabituelle. Sur les places de marché désertées, au carrefour des avenues, sur les parvis et même devant le cabaret du Chat Noir, de petits groupes d'artistes se sont installés et attendent. Eux-mêmes décontenancés d'être à pied d'œuvre, alors que les passants se font rares, ils sentent monter en eux la pression. Un mélange de trac et de fébrilité les gagne. Ce soir, ils vont tout donner. Ensemble, répartis dans le cœur de Paris, ils attendent le signe qui viendra du ciel. Car si l'idée d'Henri n'est pas la plus simple à mettre en œuvre, elle est assurément la meilleure. Il n'existe qu'un point visible de toute la cité, un seul monument qui surpasse tous les autres et dont le phare illumine la nuit depuis sa récente ouverture. Chapitre 98. Pour les deux cochers, le plus difficile n'a pas été de se laisser enfermer sur la tour métallique la plus connue du monde. Après s'être cachés dans un réduit technique du théâtre du premier étage, ils n'ont eu qu'à patienter. Lorsque les derniers employés abandonnent la plateforme, empruntant l'ultime navette des ascenseurs, ils ont le champ libre. Les choses sérieuses commencent, et c'est par les escaliers qu'ils sont obligés de gagner les étages supérieurs. Les nuages empêchent d'apercevoir les étoiles dans le ciel de Paris. L'exposition ferme ses portes après la désormais célèbre représentation musicale de la Fontaine Lumineuse. La foule, dont on perçoit la clameur même d'aussi haut, quitte le Champ de Mars. Les deux hommes n'ont pas le temps d'admirer l'extraordinaire vue qui s'offre à eux. La capitale illuminée ne sera que le décor d'une course très particulière qu'ils doivent absolument remporter. Il leur reste plus de 1300 marches à grimper avant d'atteindre leur but et ils disposent de moins de 10 minutes pour y parvenir. Ils enchaînent les escaliers, ne reprenant pas même leur souffle sur les paliers. Le record de vitesse d'ascension à pied depuis le sol, détenu par un sportif américain, est d'à peine plus d'un quart d'heure. Personne ne saura jamais que les deux hommes vont au moins égaler cet exploit sur sa dernière partie en étant de surcroît privé de la lumière du jour. Le vent nocturne ne cesse de forcir avec l'altitude. Ils doivent redoubler d'efforts. Pour éviter d'être déstabilisés par les bourrasques, ils se tiennent aux rambardes tout en prenant garde à ne pas manquer de marche. Entre le deuxième et le troisième étage, la forme de l'escalier change pour s'adapter à la structure plus fine de la tour. La sensation de vide est omniprésente, renforcée par les rafales qui perturbent leur équilibre et la fatigue se fait sentir. Le cœur battant à tout rompre, un des cochers est soudain pris de vertige. Attends, lance-t-il à son compagnon en se pliant sur lui-même. Je ne me sens pas bien. On ne peut pas ralentir. Tout le monde compte sur nous. Courage, concentre-toi sur les marches et suis-moi. Nous sommes presque arrivés. Prenant une grande goulée d'air, l'homme se redresse. Ils repartent. Hors d'haleine, ils atteignent la terrasse du troisième étage, la plus haute, celle où est installé l'appartement réservé à M. Eiffel lui-même et à ses invités de marque. De l'extérieur, on aperçoit par les baies les papiers peints décoratifs et le mobilier de bois précieux. Pour l'heure, il n'y a là que le gardien, assis sur un tabouret et absorbé dans la lecture d'un roman. Le phare est installé encore au-dessus, sur une minuscule plateforme posée sur les deux arches de poutrelles croisées qui coiffent le monument. Sa lumière est aveuglante et le bourdonnement des installations électriques se mêle au sifflement du vent dans les structures. La clarté qu'il promène sur la ville et ses monuments peut être suivie à l'œil nu, tant elle est intense. Les cochers n'auront pas besoin de s'aventurer sur le minuscule escalier ajouré qui s'enroule autour de la colonne centrale dressée au sommet, car d'après leurs informations, les interrupteurs contrôlant l'alimentation du phare sont situés dans le local jouxtant l'appartement de l'ingénieur. En se baissant sous le niveau des baies vitrées, les deux hommes trouvent la porte du local. L'un vérifie sa montre. Presque à l'heure. L'autre lui désigne le gardien dans la pièce attenante. J'espère que son livre l'accaparera assez pour nous éviter d'avoir à l'assommer. Il sort tout de même un air de bœuf de sa sacoche. Il se faufile dans le local. La chaleur y est élevée et l'atmosphère sèche. Le tableau de commande est là, équipé de quatre gros contrôleurs d'intensité à aiguille et d'autant d'interrupteurs à basculement. Au-dessus de celui de gauche, une plaque gravée porte la mention « phare ». Les deux hommes se consultent du regard et le plus hardi des deux abaisse le contact. Une belle étincelle claque lorsque les lames quittent les broches. Son complice ressort aussitôt pour vérifier. Il revient sans tarder. « C'est bon, c'est éteint !» En éteignant le sommet du plus grand édifice du monde, ils viennent de donner un coup d'envoi silencieux. Une voix les interpelle soudain avec virulence. « Qu'est-ce que vous faites là, vous deux ?» Chapitre 99. Le ciel vient de perdre son étoile la plus brillante. La tour Eiffel s'est brutalement éteinte. Stationnée dans la récente rue de Turbigo, le cocher, qui n'attendait que cela, frappe deux coups secs sur le toit du fiacre pour donner le signal du départ. À l'intérieur, face à Conrad et Henri, Charles et Pierre sont assis côte à côte. L'attelage accélère rapidement sur la voie dégagée. Alors que la cabine se penche dans un virage, Addison écarte légèrement le rideau et voit se profiler la rue Réaumur qui suit le tracé de l'ancienne rue Filippo. À son extrémité se trouve le square du temple et le sous-sol qui conduit à la crypte. En les voyant approcher à vive allure, les équipages chargés d'isoler le quartier s'écartent pour les laisser passer. Addison prie en silence pour que rien ne soit arrivé à Vincent pendant sa journée de solitude sous terre. Pierre garde un œil sur Henri, qui arbore une expression fermée. « Tu es inquiet ?»« Je suis surtout pressé de retrouver Vincent. Vous lui direz bien que c'est moi qui ai eu l'idée du phare, hein ?» Pierre hoche la tête. « Compte sur nous. » Le fiacre accélère encore. Charles tire une fois de plus sa montre de son gousset. À l'heure qu'il est, David et une autre équipe ont déjà dû déposer les pièces de bois et les outils dans la crypte. L'attelage remonte la rue de Bretagne et commence à réduire l'allure aux abords de l'entrée de service de l'hôtel de ville. « Messieurs, nous arrivons, » annonce Charles. « Je dois être honnête avec vous, j'ignore ce qui nous attend. Du complexe souterrain dans lequel nous allons pénétrer, je n'ai découvert que l'entrée. Je sais à peine ce que Vincent a trouvé, et je dois vous avouer que je n'étais pas vraiment d'accord pour qu'il s'y confronte seul. Vous et moi ne nous connaissons pas, mais il m'a souvent parlé de vous, de chacun de vous. Je sais à quel point il vous estime, et avec quelle force il vous est attaché. Alors j'ai confiance, et je me dis que l'équipe que nous formons cette nuit ne pourrait pas être meilleure. Le fiacre s'immobilise sans lui laisser le loisir d'achever. Il est temps. Chapitre 100. Charles a été plus que soulagé d'entendre la voix de Vincent lorsqu'il a enfin répondu à ses appels. L'angoisse qui l'écrasait depuis leur séparation s'est alors dissipée. Il est le premier à entamer la descente par le puits. Après le rythme trépidant de cette journée où il y avait tellement à régler, cette expérience aérienne le ramène au présent. «
Tenez-vous fermement !» lui lance Vincent, qui l'attend déjà dans l'eau.
Dans une trajectoire rectiligne, mais en tournant sur lui-même, Addison descend jusqu'à lui, les paupières obstinément closes.
« Vous en êtes quitte pour un bon bain ?» plaisante Cavell en l'accueillant.
Charles trouve le courage de rouvrir les yeux. Stupéfait par le volume de la grotte qu'il découvre, il se retrouve dans l'eau sans qu'il s'en soit réellement rendu compte. Revenu de sa surprise, il dévisage Vincent.
« Vous avez rasé votre barbe ?»«
Ce lieu méritait que je m'y présente propre. »«
Avez-vous réussi à entrer dans le sanctuaire ?»«
Toujours pas. De toute façon, même si j'en avais trouvé le moyen, je vous aurais quand même attendu. »
Cavell ne semble pas fatigué. Addison se dit même qu'il paraît plus jeune. Est-ce l'absence de barbe ou l'exaltation de la quête?
Vincent l'entraîne à travers le lac vers l'étroite berge.
Pardon de poser la question, mais comment diable vous êtes-vous rasé?
Avec mon couteau. Vous allez voir, ce ne sont pas les caillasses qui manquent pour l'aiguiser.
Avez-vous réussi à tout organiser?
La diversion a parfaitement fonctionné. Chacun a joué le jeu, sans exception.
Vous auriez dû voir ça. Tous s'en sont donnés à cœur joie. Une sacrée zizanie, dont la presse se fera sans aucun doute l'écho.
En tout cas, la bonne volonté de ces artistes m'a fait chaud au cœur.
Nous les remercierons. Je sais déjà de quelle façon.
Avez-vous pu vous procurer les explosifs?
J'ai 3 bâtons de dynamite, mais seulement 4 mètres de mèche.
C'est plus qu'il n'en faudra.
Ils émergent de l'eau à l'entrée de la faille.
Charles n'est pas mécontent d'avoir à attendre les autres, il va pouvoir souffler un peu. Conrad, Henri et Pierre ne tardent pas à les rejoindre. L'effet que produit sur eux la découverte du lac souterrain est chaque fois spectaculaire. Conrad jure tout ce qu'il sait dans sa langue natale. Le clou n'attend même pas d'arriver au niveau de l'eau pour sauter dedans. Quant à Pierre, il s'offre l'arrivée la plus digne en étant le seul à ne pas tourner sur lui-même.
Pierre donne l'accolade à son aîné et lui demande aussitôt « Comment diantre as-tu découvert cet endroit extraordinaire ? Tu as décrypté des textes secrets ? Une carte codée ?»
Mieux que ça. Un compagnon est tombé dans le puits. Heureusement, il s'en est bien sorti. Pierre évalue la hauteur avec un sifflement impressionné.
Sacré plongeon !
Sacré, c'est le mot. Je suis heureux de te voir ici, mon frère. Pierre le fixe, haussant un sourcil.
Je ne suis plus petit ?
Vincent sourit.
C'est ici que nous allons devoir chercher ton trésor ? Il est immergé ?
Non, tu vas voir, il faut s'aventurer plus loin encore. Ce lac n'est que le vestibule d'entrée.
Chapitre 101. Débouchant de la faille en file indienne, la petite troupe arrive au terme de son périple. Vincent, qui ouvrait la marche, se décale pour laisser ses 4 compagnons découvrir l'ampleur de la cavité qui s'offre à leur vue. Cette fois, éclairée par les monolithes, elle apparaît dans toute sa titanesque splendeur.
« Il y a une rivière !»
s'exclame Henri en percevant le son de la cascade. Addison s'avance et, dépassant un éboulement naturel de blocs de roche, découvre tout à coup le donjon. Il est saisi. La tête lui tourne. La vue de l'édifice enflamme aussitôt son esprit et le prive de tous ses moyens.
« Je vous avais dit qu'il était beau, » souffle Vincent. « Il est bien plus que cela. »
En le contemplant, je n'ai pas vu passer les heures. Plus je l'observe et plus il me fascine. Pierre, Conrad et Henri se sont immobilisés, eux aussi. Sur leur visage, Vincent lit ce qu'il éprouve lui-même depuis qu'il l'a découvert. La stupéfaction, un émerveillement sans bornes, teinté d'admiration et d'un soupçon de crainte.
« Aucune ouverture, note Pierre. Y entre-t-on par un passage secret ?
C'est pour le savoir que j'ai besoin de vous. Sans se soucier des pierres qui jonchent le sol, Addison s'avance vers l'édifice. Il trébuche, mais n'y prend pas garde, comme hypnotisé par le monument. Tout à coup, il lance. Cette tour n'a peut-être pas vocation à être ouverte. « Que voulez-vous dire ?» s'étonne Vincent. « Il pourrait s'agir d'un mausolée, un fabuleux temple funéraire. »«
Un tombeau ?» s'exclame Conrad.
Cavell plisse le front. « Il n'en possède aucune caractéristique, note-t-il. De toutes les tombes monumentales découvertes, où que ce soit dans le monde, aucune ne lui ressemble. Si on le compare aux pyramides égyptiennes, et même aux cavernes sculptées, Addison objecte vivement. Concédez que pas un des chemins qui nous ont conduits jusqu'ici ne ressemblait à quoi que ce soit de connu.
Qui pourrait s'être fait inhumer si loin sous terre, s'interroge Pierre, dans une pareille construction? Au moins un roi!
Addison avance toujours vers le monument, comme attiré par une force invisible. Vincent lui emboîte le pas.
Cette sépulture n'a peut-être pas été conçue par celui qui y repose, fait remarquer Charles, mais par ceux qui ont jugé que sa dépouille devait y être placée, à l'abri pour les siècles des siècles.
Vincent n'avait pas envisagé le donjon sous cet angle. Cette hypothèse remet en cause tout ce qu'il avait imaginé. Charles poursuit son raisonnement.
Le sanctuaire qu'évoque le témoignage rapporté par Loyola pourrait fort bien être l'autel de la plus importante des reliques découvertes en Terre Sainte, l'ultime demeure du roi des rois.
L'instinct de Vincent l'empêche d'adhérer à cette idée. La supposition de Charles, aussi séduisante soit-elle, ne parvient pas à supplanter ce qu'il a ressenti durant ses heures de solitude auprès de la fortification, comme si ce lien viscéral qu'il a éprouvé au premier regard lui permettait d'être sûr que cette hypothèse ne correspond pas à la vérité du lieu. Addison est arrivé au pied de la fortification. Comme Vincent, il n'ose pas la toucher. Il se signe. Cavell s'arrête à ses côtés.
Le témoignage mentionnait plusieurs reliques et un trésor spirituel.
Recueilli devant le monument, Charles ne réagit pas. Ses lèvres bougent en silence. Il prie.
Quoi que renferme cette enceinte, déclare-t-il quand son compagnon a terminé, nous ne la profanerons pas. Je ne vous ai pas demandé de me rejoindre pour cela. Si nous utilisions autre chose que notre esprit, nous ne vaudrions pas mieux que nos adversaires. Tout ce que j'espère, c'est une chance de trouver l'accès conduisant à son secret. Si un tel passage n'existe pas, ou si nous ne le découvrons pas, alors nous rendrons ce lieu à sa nuit éternelle.
Addison approuve d'un hochement de tête. Chapitre 102. Conrad et Charles sont partis explorer la caverne et Pierre achève son tour de la muraille. « Qu'en dis-tu ? » lui demande son frère.
« La surface est étonnamment lisse et l'assemblage parfait. Étanche est le premier mot qui me vient pour définir cette tour. Elle n'offre aucune information, n'expose rien d'autre qu'une enceinte, réfractaire à toute investigation. Pas le moindre symbole, aucune marque, pas même la signature d'un tailleur de pierre. Pourtant, si l'on songe à l'importance du chantier qu'il a fallu pour bâtir ce géant, ils ont dû être nombreux. »
Vincent acquiesce. Son cadet reprend.
J'ai l'impression que sa forme n'est due qu'à une recherche inconditionnelle d'efficacité, un parti pris radical de protection. Tout a été fait pour la rendre la plus résistante possible. Cette volonté surpasse toute autre considération et nous prive d'un style architectural définissable qui nous permettrait de dater sa construction.
Les sarcophages de la crypte datent du XIIIe siècle.
L'indice est à prendre en compte. Mais un autre point m'interpelle. La technique de construction ne me paraît pas correspondre à celle en vigueur dans nos contrées. As-tu déjà entendu parler d'un pareil puzzle? Regarde ces blocs en L et ces tailles différentes. Nous sommes loin des volumes rectangulaires privilégiés par les bâtisseurs de cathédrales ou de châteaux. On dirait
que les constructeurs ont tiré parti de tous les gabarits dont ils disposaient, même si cela compliquait leur labeur. Peut-être le mélange des techniques utilisées signe-t-il l'alliance de ceux qui ont bâti cette tour. Vincent songe à cet esprit de communion qui a dicté les gravures sur la clé boussole. Il se retourne vers la caverne et englobe les abords d'un large geste. Regarde autour de nous. Rien ne te surprend ? Que suis-je supposé voir ? Rien, justement. Les pierres utilisées pour dresser cette tour proviennent de cette grotte. Elles en ont été extraites. Or, il ne subsiste pas la moindre trace du chantier, sans doute gigantesque, qui a dû se dérouler ici pour ériger ce colosse. Pas un reste d'échafaudage, pas d'installation ayant pu servir aux multiples métiers engagés dans sa réalisation. Je n'ai même pas trouvé d'éclat de taille. Il n'y a que ce donjon, entouré par ses lampes, comme s'il avait poussé tout seul, par lui-même, tel un arbre dans une clairière. C'est vrai, constate Pierre en hochant la tête. Les deux frères contemplent l'édifice en silence, puis Vincent demande : Que t'inspire le fait qu'il soit adossé à la paroi rocheuse ? Je n'en sais trop rien, fait Pierre. Une volonté de le stabiliser encore davantage ? Bien qu'il n'en ait apparemment pas besoin. Et toi ? Éviter qu'il puisse être encerclé. Je ne vois que cela.